Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast à haute vibration. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une personnalité passionnante, un explorateur des frontières de la connaissance humaine. J'ai nommé Stéphane Alix, journaliste, ancien reporter de guerre et fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, ainsi que du magazine Inexploré. Stéphane n'est pas un invité ordinaire. Concepteur et présentateur des enquêtes extraordinaires sur M6, il a également enrichi le monde littéraire avec de nombreux ouvrages devenus best-sellers, notamment Le Test, Après et Nos âmes oubliées. J'ai invité Stéphane suite à l'apparition de son dernier ouvrage, le résultat de 15 ans d'enquête sur ce sujet aussi intime qu'universel, la mort, ou comme j'aime l'appeler, l'après-vie. Sa quête débute dans le tourment du deuil suite au décès de son frère, moment où les grandes interrogations sur la mort et la conscience se sont imposées à lui. Avec la rigueur du journaliste, mais aussi l'ouverture d'esprit de l'explorateur spirituel, il a plongé dans les abîmes de l'inconnu, confrontant les savoirs de la médecine, de la neuroscience, mais aussi de son expérience chamanique et de son chemin thérapeutique. Dans cette interview, j'ai voulu poser à Stéphane d'autres questions, un peu plus intimes, sur son chemin personnel et ses expériences. Nous avons parlé de chamanisme, de quête spirituelle, de la mort, mais aussi de la vie et de la place de l'âme. J'ai profondément aimé ce partage riche et profond, et j'espère qu'il vous parlera autant qu'il m'a inspiré. Bonjour Stéphane et bienvenue Bonjour. Dans cette entrevue.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Je suis ravie. Aujourd'hui, on va parler de la mort, mais pas que, avec ton dernier ouvrage qui s'appelle « La mort n'existe pas », qui est sorti chez HarperCollins et que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Et j'avais aujourd'hui envie de t'inviter pour discuter de ces thématiques que tu abordes dans ce livre. Tu abordes donc la mort, comme son nom l'indique, mais aussi la fin de vie, le chamanisme, la place de l'âme, de la conscience, et tu mêles aussi philosophie, science, avec tes réflexions personnelles. Alors j'avais envie aujourd'hui qu'on aborde certains de ces sujets ensemble, et peut-être que l'on commence par la thématique du titre, celle de la mort. Tu expliques que tu t'es lancé dans une enquête, dans une expérience d'exploration de la mort, suite notamment au décès de ton frère dans un accident en Afghanistan en 2001, qui a déclenché ce cheminement d'exploration. Mais tu partages aussi dans ton ouvrage que tu avais déjà des prédispositions, un intérêt pour ces questions spirituelles, existentielles, depuis ton enfance. Est-ce que tu dirais que c'était peut-être les prémices de ton chemin, que c'était une forme déjà d'ouverture que tu avais qui a continué avec les événements de la vie et qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui?
Je pense, oui, je pense que j'ai toujours eu, même depuis l'enfance, un questionnement existentiel très très profond, quoi. Et mais je pense qu'on est beaucoup à partager ça dans l'enfance, dans l'adolescence. On se demande qu'est-ce qu'on fait là, en fait, quel est le sens de ce monde qui nous paraissait absurde. Est-ce que ce que nous propose le monde adulte est si épanouissant, si en phase avec une forme de réalité? Il y a beaucoup d'absurdité quand on commence à s'engager dans ce monde, parce que voilà, il suffit de regarder autour de nous, il y a de la violence, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a quelque chose qui manque, en fait. Et donc j'avais, moi dans l'adolescence notamment, j'avais vraiment le sentiment de ce manque qui m'habitait, mais sans que j'aie de voie très claire pour explorer ça. C'était moi, je traduisais ça plutôt par une forme de spleen baudelairien. Donc, je lisais beaucoup d'auteurs romantiques. J'avais beaucoup de moments de rêverie. Et puis j'ai commencé mon activité professionnelle assez tôt. Je suis parti pour devenir reporter de guerre. C'était une espèce d'aspiration très, très forte à l'âge de 19 ans en Afghanistan, qui était à l'époque occupé par les Soviétiques. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout fermé, en fait. J'ai tout éteint. C'est-à-dire que la brutalité du monde auquel j'étais confronté a fait disparaître tout questionnement existentiel, tout questionnement spirituel. Pour moi, il n'y avait qu'une seule réalité, c'était celle du combat des hommes pour leur liberté ou pour telle ou telle cause. Et ça n'est qu'au moment de la mort de mon frère Thomas en 2001, j'avais 32 ans à l'époque, que tout d'un coup, ces grandes questions sont revenues, parce que quand on est face à un deuil inattendu, comme celui d'un frère qui meurt dans un accident de voiture devant soi, Moi, à ce moment-là, enfin, en tout cas, il était plus possible pour moi de continuer ma vie comme si de rien n'était, de revenir à mon espèce d'amnésie antérieure et de continuer. Mais c'est clair que ce manque, ce questionnement, il a vraiment été présent, parfois de façon invisible, mais quand même présent toute ma vie. Et comme tu le soulignes, j'ai vécu à certains moments de mon existence des moments un peu curieux, des moments d'intuition très forte que je suis, ou des moments de ressenti un peu inexpliqué, un peu subtil. Mais j'ai fait comme la plupart des gens, c'est-à-dire qu'on moi j'ai ma ligne de réalité. La réalité, c'est le monde concret que je touche, c'est cet univers dans lequel je suis. Et donc tout ce qui est de l'ordre du subtil, de l'inexpliqué, je le gommais de ma vie. Tu vois, je vivais un truc un peu étrange au Tibet ou en Afghanistan ou en Asie centrale, une expérience assez courte de quelques secondes, quelques minutes, et puis hop, tu ranges ça dans un coin de ta tête et tu reviens au sérieux, en fait. Mais la mort de mon frère a vraiment été le déclencheur d'une envie de questionnement plus profonde et surtout d'une impossibilité pour moi de continuer dans cette voie de somnambule qui est celle que la plupart des gens suivent, parce que voilà, la société nous coince en fait dans des rails et il faut souvent des chocs pour avoir envie de sortir de ces rails.
Ouais, merci beaucoup pour ce partage qui est puissant et je pense qu'il résonnera aussi avec beaucoup de personnes. Et c'est vrai que dans ton livre, on retrouve ton histoire qui démarre en fait cette enquête dans un travail justement de journaliste cartésien, très logique, qui justement a une approche vraiment celle d'un reportage, d'une quête intellectuelle véritablement et très pragmatique. Tu le soulignes tout au long de ton ouvrage et au fil des années, au fil de tes explorations, au fil de tes recherches finalement. On le sent dans ton livre, ton regard change, ton regard sur la vie, sur la mort, sur les frontières du réel, de la conscience, etc. Mais aussi, je peux m'empêcher de penser, ton travail de journaliste qui doit s'imprégner de tout ce que tu vis. Aujourd'hui, on fait cette entrevue, il y a derrière toi un beau tanka tibétain. Comment est-ce que tu envisages justement ton travail d'enquêteur, de journaliste aujourd'hui, 15 ans après cette enquête et avec tout ce que tu as pu à la fois vivre, expérimenter, mais aussi entendre de toutes ces enquêtes et ces témoignages que tu as recueillis au fur et à mesure des années?
Bah, ça a été un long processus et comme tu le soulignes, effectivement, après la mort de mon frère, moi je ne voyais pas d'autre façon de questionner la mort qu'en tant que journaliste. Mais ça, j'observe souvent ça d'ailleurs chez des gens en deuil. Souvent, les femmes sont peut-être plus ouvertes à une dimension subtile, elles ont moins de blocages, elles ont plus de facilité à entendre des choses qui peuvent pas être vraiment objectivées tout de suite. Mais je vois chez les hommes, et j'en suis un exemple criant, on n'a pas envie de se laisser aller. On n'a pas envie de se laisser aller à faire confiance à des ressentis subtils. On n'a pas envie d'aller dans le subjectif. On n'a pas envie d'aller dans les croyances. Et paradoxalement, la mort de quelqu'un, plutôt que de, enfin, dans mon cas, mais je l'ai aussi observé chez beaucoup d'hommes, la mort d'un proche, d'un enfant ou d'un frère, dans mon cas, va renforcer les murs de cette forteresse. Ça va renforcer nos résistances. Ça va renforcer notre exigence de rationalité. Non, non, j'ai pas du tout envie de me mettre à croire à ça. J'ai pas besoin de me faire du bien. J'ai pas besoin d'une religion. J'ai pas besoin d'un curé ou d'un imam ou d'un moine bouddhiste. J'ai besoin d'être sûr que mon fils, mon frère, mon père, ma mère sont quelque part. Et j'ai pas envie d'adopter une croyance. Donc moi, au démarrage, ça a vraiment été un travail extrêmement rigoureux d'enquête journalistique, en allant interroger notamment le sujet des expériences de mort imminente, ces gens qui, pendant un accident de voiture, un accident de bloc opératoire, un coma ou autre, plutôt que d'avoir été inconscients comme ils auraient dû l'être, puisque leur cerveau fonctionnait pas bien ou pas du tout, rapportent au contraire une expérience de très grande conscience avec le tunnel, la lumière, la vision d'être décédé, d'être spirituel. Et donc, je me suis engouffré là-dedans en essayant de comprendre si on avait des éléments qui permettait de comprendre que ces expériences n'étaient finalement que des productions d'un cerveau en train d'halluciner, en souffrance, etc. Et après quelques interviews de témoins, quelques interviews de chercheurs, la lecture d'articles, je me suis rendu compte que non, cette explication qu'on nous sert souvent comme ça, spontanément, en disant bah oui, c'est rationnel, c'est la logique, ils ont juste rêvé, bah, elle tient pas la route, elle tient pas la route du tout. Ces expériences de mort imminente sont toujours aujourd'hui encore totalement mystérieuses. On n'a absolument pas trouvé de cause physiologique, c'est-à-dire le cerveau n'y est pour rien. Et même l'inverse, c'est-à-dire que la phénoménologie, la façon dont ces expériences se produisent, ce que les gens rapportent, est absolument inexplicable en termes de production cérébrale. Donc voilà, ça, après simplement quelques mois d'enquête, tu vois, j'arrive à ce constat, et puis je m'intéresse à d'autres sujets connexes, la médiumnité, c'est-à-dire ces gens qui communiquent avec des défunts, enfin qui prétendent communiquer avec des défunts. Je m'intéresse à ces expériences en fin de vie, où des personnes en train de mourir dans les unités de soins palliatifs ou dans les services de gériatrie, plutôt que d'être dans une espèce de long effacement, parfois ont des moments d'éveil, parfois ils décrivent la présence de personnes dans les pièces. Donc je vais interroger des médecins, des infirmières qui travaillent en unité de soins palliatifs. Je leur dis, mais est-ce que c'est des hallucinations qui sont liées à la fin de vie? Et on me répond souvent et très très souvent, bah non, ça ressemble pas du tout à une hallucination. C'est vraiment comme si un autre monde commençait à se manifester auprès de ces personnes qui sont en train d'y glisser. Donc ça, si tu veux, au bout de quelques années d'enquête vraiment rigoureuse dans cet espace-là, je suis arrivé à ce constat presque d'évidence qu'aujourd'hui la science te permet d'affirmer que la conscience ne se réduit pas à notre activité cérébrale, qu'il y a un monde invisible qui est là, qui se manifeste de plein de manières différentes, que les témoins sont pas tous des fous, sont pas tous des gens qui sont en train d'halluciner, sont pas tous des gens qui sont dans une déréalisation, mais qu'il y a vraiment peut-être des preuves, et c'est ce que je rapporte dans mon livre, des preuves très concrètes de l'existence de l'âme, en fait. Donc, à ce stade de mon enquête, bah effectivement, moi, ça m'affecte, ça me change, ça me bouleverse, et progressivement, le désir s'impose de faire l'expérience de ces différentes dimensions de notre conscience. Si ça existe réellement, si mon frère est réellement peut-être quelque part, ou alors ça c'est le grand mystère, mais il a plus de corps, il est sorti du temps et de notre espace, mais il est encore vivant quelque part. Je veux le rencontrer. Je veux faire moi-même l'expérience de ce contact avec ce monde spirituel, parce que je me dis que si j'arrive à avoir des éléments suffisamment convaincants, ça achèvera définitivement de me convaincre. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers le chamanisme en 2006, donc il y a pas mal d'années de ça, pour commencer des expériences, parce que très naïvement, j'étais parti voir ces gens qui disent voyager dans les mondes spirituels, apprendre de la part des esprits, des plantes, des arbres, des animaux ou d'autres, des connaissances qui leur servent pour ce qui est de l'Amazonie à soigner, par exemple. Donc, je suis parti là-bas et ça a été le démarrage d'un très très long chemin parallèle, en fait. J'ai continué à être journaliste, j'ai continué à enquêter, à interviewer, à lire des articles scientifiques, des études, mais en même temps que ça, je suis reparti en Amazonie encore et encore pour faire ces expériences moi-même et pour essayer de voir ce que je pouvais en apprendre. Alors c'est un très long processus parce que je compare ça souvent au fait d'apprendre une langue étrangère. Quand tu veux apprendre le chinois, ça va prendre du temps parce qu'il faut se familiariser avec les sonorités, la grammaire, la logique, etc. Donc ça paraît tout à fait évident que on va pas apprendre le chinois en un week-end, mais qu'il va falloir sans doute plusieurs années avant de devenir vraiment efficace dans ce domaine-là. Le chamanisme, c'est pareil. Ça t'ouvre sur des dimensions que t'as jamais appris à voir, que ton cerveau est pas habitué à percevoir ni à traiter. Donc, les premières expériences, c'est un mélange d'ouverture d'un monde invisible, extérieur, un monde d'esprit, un monde de force. Et en même temps, de par la nature des substances qui sont utilisées en Amazonie, c'est aussi l'ouverture d'un monde intérieur. Toutes ces dimensions de ton inconscient que tu ne connais pas par définition, qui participent de ton être. Nous, on croit être des individus plus ou moins dont on connaît un peu tous les paramètres, mais la psychanalyse, les psychologues nous explique qu'on a une part inconsciente qui est peut-être même bien plus colossale que notre part consciente, et que cette part inconsciente qui est alimentée par nos peurs d'enfance, notre éducation, par 1000 paramètres psychologiques, elle influence notre vie. Tu sais, c'est les comportements, les attitudes que l'on peut avoir parfois dans certaines situations et que l'on comprend pas. On dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis, par exemple, dans mon couple, en situation d'échec récurrente? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je retombe dans les mêmes travers? Ou professionnel? Pourquoi est-ce que je m'auto-sabote professionnellement? Pourquoi est-ce que j'ai si peur de ça? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça? Ben, les réponses, en fait, elles sont dans notre inconscient. Parce que notre inconscient, il a mis en place des stratégies pour nous protéger, croyant bien faire. Et parfois, dans ces stratégies, il y a des choses qui sont élaborées sur des réalités inexistantes. Je prends un petit exemple. Tu as 2 ans, tu vas voir ton papa pour lui faire un câlin. Et puis ton papa, en fait, il est en train de bosser ou de faire la cuisine ou de faire autre chose. Et puis il dit, non, non, pas maintenant. Il le dit avec un petit peu de brutalité, mais sans que ce soit du tout méchant de sa part. Mais cette brutalité apparente, elle peut être perçue par le petit garçon ou la petite fille de 2 ans comme quelque chose d'extrêmement déstabilisant qui va lui faire construire l'idée que, oh là là, je dérange tout le temps, faut pas que je m'impose, faut que je sois effacé, faut que j'existe pas, en fait. Et ça peut se renforcer si le papa, parfois, ou il manque de patience, sans que le papa ait été jamais, jamais mal intentionné, ni méchant, ni traumatisant. Mais ça peut conduire à l'âge adulte à avoir le sentiment qu'on n'est pas à sa place, qu'on dérange tout le temps, qu'il faut faire passer les autres avant soi-même. Ça peut conduire vraiment à des dynamiques psychologiques qui sont extrêmement envahissantes et invalidantes au quotidien. Et donc, ce monde de l'inconscient qui contient toutes ces peurs, eh ben, il a commencé aussi à exploser, à se manifester. Et donc, les premiers mois et les premières années de mes expériences chamaniques, c'est un très, très long apprentissage pour comprendre qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qui est du domaine du spirituel dans ce que je perçois, dans ce que je ressens, dans ce que je vois, et qu'est-ce qui fait partie de mes peurs, de mes croyances, de mon monde intérieur inconscient que je ne connais pas non plus. Et enfin, dans mon cas, ça a été un très très long cheminement parce que j'avais dans mon inconscient peut-être des gros gros dossiers. Et aujourd'hui, parce que ta question c'était où j'en suis aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir mis des gros coups de projecteur sur mon inconscient et de connaître beaucoup mieux la façon dont je fonctionne. Et ça m'a donné la capacité, quand je vois maintenant, pendant ces expériences, ou même maintenant de façon beaucoup plus calme, pendant des périodes de méditation, quand je vois, quand j'ai des visions, quand j'ai des sensations, quand j'ai des intuitions, je sais d'où elles viennent. C'est-à-dire que je sais que parfois elles ne viennent pas de mon inconscient, parfois elles viennent d'ailleurs. Et à ce titre, j'ai pu, avoir le sentiment de rencontrer mon frère et mon père qui est décédé depuis, dans certains moments de chamanique, mais aussi dans certains moments de méditation, avec la certitude de cœur que ça venait pas de ma tête et que c'était vraiment eux, quoi. C'était vraiment eux. Mais cette assurance, comment dire, c'est pas une espèce de certitude mentale, c'est vraiment plus un ressenti intuitif qui est d'une telle puissance, d'une telle évidence que ça balaye tous les doutes que mon mental avait pu avoir. Et ça ne veut pas dire que j'ai abandonné tout discernement. Au contraire, je reste journaliste, je reste toujours très questionnant, je suis très, très, voilà, très dans le discernement à chaque fois que je vis quelque chose ou que je ressens quelque chose ou que je lis une étude, etc. Mais ce discernement ne m'empêche plus aujourd'hui d'avoir une intuition plus maîtrisée, plus ouverte et plus en capacité d'imposer cette évidence que nous ne sommes pas que des machines biologiques, mais que nous sommes des êtres spirituels et que cette aventure spirituelle que nous traversons, elle est éblouissante.
Ouais, y a plein de choses que tu partages sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Et c'est vrai que dans ton livre, on retrouve tout ton cheminement intérieur, justement ce pan du chamanisme qui aussi imprègne ton ouvrage avec le récit de tes expériences, de tes peurs que tu rencontres aussi à mesure que tu chemines dans cette voie-là, de tes questionnements, etc. Et c'est vrai que cette notion de peur est retrouvée très très forte et côtoyée aussi un petit peu, elle côtoie un petit peu la notion de folie. J'avais envie de revenir un peu sur ces deux aspects-là qu'on rencontre quand on chemine dans cette voie du chamanisme que tu décris, même aussi pourquoi pas de la thérapie. Tu racontes que tout d'abord, il y a une phrase que tu dis dans ton livre que j'aime beaucoup, c'est les deux plus grandes peurs de l'être humain sont la mort et la folie. Et un peu plus tard, tu dis, la folie correspond à la sortie des limites de notre prison cognitive. Et dans ton expérience chamanique, on voit qu'il y a cette résistance qui est de l'ordre de nos barrières psychiques et mentales qui constituent notre individualité, qui sont là pour nous protéger, mais qui se présente un petit peu comme un obstacle sur la voie de ton exploration et cette notion de folie qui est toujours un petit peu proche, que tu avais d'ailleurs aussi exploré dans ton dernier livre, Un fantôme sur le divan, où tu parles avec différents professionnels de la psychologie, psychiatrie, etc. Et j'avais envie de revenir un petit peu avec toi sur cette notion. Déjà, la peur qui semblerait, même avec cette volonté si forte que tu avais de la transmuter, de la rencontrer, qui semble être toujours là en arrière-plan et qui te retient, on le voit dans plusieurs de tes expériences. Il faut dire aussi que c'est d'une violence très forte, mais aussi en filigrane peut-être aussi cette notion de folie dans laquelle peut-être notre mental, notre ego, c'est-à-dire notre individualité, notre identité, nous empêche de tomber, nous protège.
Bah, écoute, c'est très simple en fait. Il faut comprendre que chaque être humain, quel qu'il soit, s'est construit une armure depuis les premières secondes de son existence. Ça a différents noms suivant la discipline à travers laquelle on le regarde. Moi, je vais appeler ça l'ego, l'armure, la carapace pour parler de ça. En fait, c'est quoi ? C'est juste cette personnalité qui s'est élaborée, qui nous permet d'interagir et de vivre dans ce monde de matière. Nous sommes des êtres qui interagissons en permanence avec un environnement qui peut parfois être hostile, qui peut parfois être compliqué. On doit interagir avec d'autres êtres humains. Pour interagir, il faut qu'on ait une image de nous-mêmes qui permette aux autres êtres humains de comprendre et de cerner assez rapidement qui nous sommes. Et au fur et à mesure de ce développement tout à fait naturel et tout à fait normal en psychologie, on arrive à l'âge adulte avec un sentiment d'être un individu bien défini, la plupart du temps, avec une personnalité, des traits de caractère, des caractéristiques assez précises. Mais c'est un masque, ça. C'est un masque, en fait. Et on traverse notre existence sans avoir conscience qu'on vit un rôle, en fait. Qu'on vit c'est pas un jugement péjoratif. Quand je dis on vit un rôle, c'est une nécessité adaptative. C'est pas un jugement. Et détruire ce personnage, dire qu'il faut combattre l'ego, pour moi c'est une erreur, parce que combattre l'ego, si on n'a rien derrière, on devient inadapté, on devient dans un état de grande souffrance. La question de la peur et de la folie, elle vient dès qu'on commence à travailler cet ego et à essayer d'aller un peu au-delà. Et ça, tu le retrouves de façon exacerbée dans le chamanisme qui utilise notamment l'ayahuasca, qui est une substance psychoactive, donc qui bouscule de façon extrêmement brutale cette carapace. Mais tu le retrouves en psychothérapie psychocorporelle, tu le retrouves en hypnose, tu le retrouves en méditation, tu le retrouves dans toutes ces pratiques, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur origine culturelle, qui ont en commun qu'elles vont te proposer de travailler un petit peu sur cette carapace. Non pas pour la détruire de façon irrémédiable, mais pour créer des petites failles et pour dire, est-ce qu'il y a derrière la carapace, il n'y a pas quelque chose, quelque chose de plus important. Et ce quelque chose de plus important, non seulement il existe derrière cette carapace, mais pour moi, il est même l'essence de ce qui nous sommes, notre âme, notre dimension spirituelle. Sauf que cette dimension spirituelle, sans carapace, elle n'est pas adaptée pour vivre dans ce monde-là. Parce qu'on vit dans un monde de matière, dans un monde de temporalité, dans un monde de séparation, où les individus sont en apparence séparés les uns des autres. Donc si tu n'as pas de carapace, si tu n'as pas d'ego, tu vas être dans une espèce de perception absolue de tout et de tout le monde, et c'est d'une souffrance absolue. Je pense qu'il y a dans nos hôpitaux psychiatriques beaucoup de personnes qui sont dans cette hyper-perception, qui entendent les voix, qui entendent les pensées des gens autour d'eux, parce que il n'y a pas eu de construction d'ego qui leur permette de maintenir cette frontière. Donc, ils captent des choses qui sont pour moi une réalité, mais ils sont dans une captation non maîtrisée qui les submerge et qui est extrêmement extrêmement difficile. C'est ce qu'on appelle la folie. La folie, en fait, c'est l'abolition d'une certaine quantité de barrières qui nous permettent de maintenir une forme d'intégrité.
Forme de perméabilité.
Et de perméabilité, bien sûr. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les pratiques spirituelles les plus anciennes jusqu'aux plus récentes t'invitent à non pas à détruire ton ego, mais à prendre conscience que ton ego n'est pas toi, que ton ego n'est pas ce qui te définit. Et je pense que le chemin spirituel, quel qu'il soit, quelles que soient les traditions, c'est de réussir à parvenir à prendre conscience de ça, des limitations de cette personnalité et de cet ego, de ce visage que nous voyons dans la glace chaque matin, tout en conservant quand même ses caractéristiques protectrices, mais en nous ouvrant progressivement sur les dimensions plus profondes qui nous constituent. Et avec le chamanisme, ça se fait de façon très brutale parce que on connaît parce qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques aujourd'hui qui sont faites sur les substances classées psychédéliques, dont l'ayahuasca fait partie, et on sait précisément quelle action ces substances ont sur le cerveau. Elles ne provoquent pas d'hallucinations comme on le pensait initialement. Elles éteignent des parties de notre cerveau et notamment un réseau cérébral qui s'appelle le réseau mode par défaut, qui est le réseau de plusieurs aires cérébrales qui fonctionnent ensemble et qui, justement, précisément, maintiennent l'activité de notre ego, si je dois résumer au maximum. Et donc, la DMT, qui est la substance psychoactive contenue dans l'ayahuasca, ou le LSD, ou la psilocybine, qui est le principe actif dans les champignons dits hallucinogènes, on voit que leur action, précisément, provoque une baisse d'activité et de connectivité neuronale dans ces aires cérébrales. Donc, très concrètement, pendant ces expériences chamaniques, on vit la dissolution de notre ego, avec plus ou moins grande intensité suivant le dosage qu'on a pris, suivant l'encadrement dans lequel on est. Donc, c'est profondément déstabilisant parce qu'il n'y a rien d'autre qui nous permette de tenir, d'avoir ce sentiment d'exister. Et moi, j'ai vécu, et je le raconte dans le livre à plusieurs reprises, des moments en haut dosage, notamment d'ayahuasca en Amazonie, l'impression de mourir, très concrètement. Mais c'est pas moi qui meurs. C'est un premier niveau le niveau le plus superficiel et le plus apparent de ce qui me constitue. C'est mon identité de Stéphane, ma carapace qui est en train de se dissoudre et de se désagréger. Et c'est ça qui demande du temps, et c'est ça qui m'a demandé à la fois un encadrement extrêmement rigoureux, soit celui des chamans, soit celui des psychothérapeutes qui, en Occident, comme en Suisse par exemple, peuvent travailler avec des psychédéliques pour accompagner des patients. C'est tout à fait légal en Suisse notamment. Ça va le devenir, je l'espère, en France. C'est légal dans certains États américains, en Australie, etc. Mais voilà, ça, dès que tu commences à toucher un peu à la carapace, dès que tu commences à te regarder dans la glace en disant, bah, en fait, ça, là, c'est pas forcément moi, c'est déstabilisant. Mais tu sais, on en vient à une question qui est pour moi une question fondamentale. Est-ce que le chemin spirituel, ça doit être un chemin confortable sur un transat avec un mojito sur une belle plage? Ou est-ce que le chemin spirituel, c'est pas plutôt l'inverse? Plutôt une aventure qui va te confronter à des moments de déstabilisation, à des épreuves même parfois, parce que être déstabilisé ou traverser des épreuves, c'est pas Dieu qui te punit, c'est au contraire peut-être une dimension spirituelle plus profonde qui te constitue, qui te dit eh oh, je suis là, je suis là. Ce que tu crois être, c'est peut-être pas tout toi. Et parfois, ce que tu crois être, ça te fait faire des décisions, ça te fait prendre des décisions idiotes, ça t'aveugle, ça te confuse. Tu sais, dans l'hindouisme, j'ai passé beaucoup de toutes ces dernières années, beaucoup de temps en Inde. Dans l'hindouisme et dans le yoga, on parle de l'ignorance fondamentale qui caractérise les êtres humains. C'est pas un terme péjoratif ou un jugement. C'est plus la nature même de notre personnalité qui nous maintient dans une forme d'ignorance de la nature réelle de ce qui nous constitue et de ce qui nous entoure. Et donc les thérapies et le chemin spirituel, pour moi, c'est vraiment travailler à diminuer et dissiper l'ignorance. Sauf que notre ego, lui, il a envie de maintenir cette ignorance. Parce que depuis son enfance, depuis sa naissance, notre ego, il dit, je connais tout et je vais vous protéger et tout va bien se passer. C'est
Ouais.
le paradoxe de ce chemin.
Absolument. Je te rejoins beaucoup sur cette idée de courage spirituel, une forme de bravoure qu'il nous faut pour entrer justement dans ce chemin qui n'est pas un chemin de facilité et de confort, comme tu le décris souvent et que tu partages aussi dans ton livre. Et les événements de la vie sont là aussi. Enfin, on peut décider d'y voir une forme de sens ou en tout cas d'opportunité pour grandir, pour cheminer, pour peut-être s'alléger. Et tu parles dans ton livre une formulation que j'ai beaucoup aimée, d'engourdissement de la conscience par la personnalité. Et ça vraiment, ça me parle beaucoup, cette phrase, vraiment, cette notion d'amnésie qu'aurait l'âme en venant s'incarner complètement identifiée à sa personnalité, à son expérience terrestre. Selon toi, avec ton expérience, avec tes mots, pourquoi est-ce qu'on est tellement engourdi, empêtré dans les liens de notre personnalité? Est-ce que cela servirait-il un but plus grand? Est-ce que cela serait même part d'une conception de notre âme? Comment est-ce que tu vois les choses vis-à-vis de ça?
Cet engourdissement, il a une cause physiologique très claire et très identifiée, c'est notre cerveau et le fonctionnement de notre cerveau. On sait comment le cerveau fonctionne. C'est une machine auto-apprenante qui nous sert à survivre dans ce monde de matière et de temporalité. Notre cerveau, il acquiert des informations sur son environnement pour essayer d'identifier les dangers potentiels qui vont venir et donc anticiper les situations. Nous, on est des Homo sapiens. Pour la plupart d'entre nous, enfin, pour certains d'entre nous, comme toi, moi, on a la chance de vivre dans un monde qui est pas trop hostile. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de réel danger. Mais il y a quelques dizaines de milliers d'années, les êtres humains étaient dans un environnement beaucoup plus hostile, avec des loups, des bêtes sauvages, un environnement dont il fallait être extrêmement méfiant, tu vois, un bruissement de feuilles quand tu te promenais dans la forêt, ça pouvait aussi bien être rien, du vent, qu'un ours caché qui allait te sauter dessus. Donc notre cerveau, il a développé tout un ensemble de stratégies d'acquisition d'informations pour optimiser sa connaissance de son environnement immédiat et des dangers potentiels pour pouvoir anticiper toutes les situations. Donc notre cerveau, c'est ça, c'est j'apprends, j'anticipe, j'apprends, j'anticipe. Et puis ça devient assez rapidement... Je crois savoir, je rumine. Je crois savoir, je rumine. Donc c'est vraiment une disposition naturelle du cerveau. Il n'y a pas, encore une fois, de jugement. Il n'y a pas pour moi de vision philosophique ou autre. C'est vraiment notre cerveau, c'est ça. Il faut en avoir conscience. Et d'ailleurs, toutes les pratiques spirituelles, jusqu'à la méditation, proposent justement de mettre un peu en stand-by ce mécanisme automatique du cerveau. La méditation, on voit qu'elle a exactement le même effet que peuvent avoir les psychédéliques sur le cerveau, en permettant de créer des nouvelles connectivités neuronales et en mettant un petit peu en stand-by aussi ce réseau mode par défaut qui sous-tend notre ego. Non pas pour le faire disparaître, mais pour créer des voies alternatives de relations au monde. Et on voit l'effet, ne serait-ce que quelques semaines de pratique méditative quotidienne, ne serait-ce que 20 minutes par jour pendant 3-4 semaines, on va voir, si on fait de l'imagerie cérébrale, des connectivités nouvelles apparaître dans le cerveau, qui permettent justement de faire autre chose que apprendre, anticiper, apprendre, anticiper, apprendre, anticiper. Et ce mécanisme cérébral qui est écrasant d'activité, parce que c'est des milliards d'activités dans le cerveau en permanence, ben il écrase toutes les autres dimensions, il écrase notre âme. C'est un peu comme si, je prends une autre image, moi, que je trouve assez parlante, c'est imagine notre âme comme une petite luciole. Tu vois, ces vers luisants qui, la nuit, sont observables. Ça, c'est notre âme. Donc, dans une nuit totalement obscure, notre âme, elle se voit. Elle est capable de se repérer, de repérer les autres âmes. C'est tout à fait naturel. Mais imagine que tout d'un coup, on braque des projecteurs de camions dans cet environnement obscur. Tout d'un coup, la lumière des projecteurs de camions va faire disparaître totalement la micro-lueur de ces lucioles. Donc notre cerveau, c'est des phares de camion. Des phares de camion qui servent à éclairer ce pour vivre dans ce monde. Sauf que en faisant cette stratégie adaptative indispensable à notre équilibre, elle écrase aussi la petite lueur, la subtilité de notre âme. Donc pour moi, c'est pas une question de jugement, c'est pas une histoire de oh là là comment dirais-je, on vit complètement amnésié, c'est mal, etc. C'est vraiment un mécanisme adaptatif dont il faut prendre conscience. Enfin, on est invité à en prendre conscience, et quand on en prend conscience, on peut développer des stratégies pour justement essayer de retrouver cette lumière de la luciole. Mais regarde, enfin, je pose pas la question à toi, mais aux gens qui nous écoutent, combien de temps vous passez chaque jour à ne rien faire et à essayer de distinguer cette petite luciole? Combien de temps? Quand je me suis posé cette question il y a quelques années, je me suis aperçu que pas une minute d'affilée dans mes journées, je faisais le silence, je m'asseyais et je me mettais en disposition de faire autre chose que ce que mon cerveau m'impose chaque seconde. Donc, comment veux-tu la voir, cette luciole? Comment veux-tu la voir si à chaque seconde, tu as une activité, tu lis, tu parles, tu réfléchis? Même quand on va aux toilettes, maintenant, on y va avec le téléphone et on scrolle. Donc, à quel moment de notre journée on pourrait laisser s'exprimer cet espace d'intuition, cet espace de l'âme. La méditation est un premier exercice que j'ai mis en place aujourd'hui qui me permet justement de, dans les journées, quel que soit le rythme et quelle que soit l'efficacité que je peux montrer dans mon activité personnelle ou professionnelle, je sais qu'à certains moments de la journée, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir et je vais être dans ce silence intérieur qui va permettre à mon cerveau de baisser un tout petit peu cette intensité de fonctionnement automatique et qui va permettre à voilà, ce que j'appelle l'âme de me lancer une petite intuition, de me lancer une image, d'apaiser quelque chose. C'est un exercice, en fait. On vit encore une fois dans une société où tout ce qu'on voudrait faire, tout ce qui nous appelle, il faudrait que ça soit faisable en un week-end de ci, un week-end de ça. Et puis, quand on n'en a pas les résultats tout de suite, on est frustré, on dit, oh là, ça marche pas, etc. Ben non, sauf que la vie, c'est pas une affaire de week-end, c'est une affaire d'années, de décennies, et que cet apprentissage-là, il ne peut être efficace que s'il s'inscrit vraiment dans une durée, en fait.
Absolument. Et cette métaphore, cette belle métaphore de la luciole, tu la reprends aussi pour parler de l'intuition en disant que c'est comme un peu les étoiles en plein jour et qu'en fait, la plupart du temps, elles demeurent invisibles. Tu le partages dans ton livre et justement, cette intuition, on voit dans le cheminement que tu partages à travers ton ouvrage, comment elle prend de plus en plus de place, comment tu l'accueilles finalement là où elle n'avait pas du tout sa place chez l'enquêteur rationnel et cartésien, journaliste que tu es au début de ton enquête. Et aujourd'hui, elle a toute sa place, la méditation que tu pratiques, comme tu le dis. Comment est-ce que justement ton intuition aujourd'hui, elle te guide dans ta vie, dans tes projets, dans ton travail? Comment est-ce que ton âme finalement, elle te parle et elle te guide dans ce que tu crées?
Déjà, le préalable à l'écoute de l'intuition, c'est de se connaître, d'apprendre à se connaître. Plus tu te connais, plus tu t'es exploré au moyen de psychothérapie ou autre, plus tu connais tes zones de l'inconscient, plus tu arrives à distinguer quand tu as une pensée, quelque chose qui arrive à ton esprit, plus tu as la capacité de discerner si c'est une peur ou une croyance qui vient de l'inconscient ou si c'est une réelle intuition. Je prends l'exemple, je sais pas si t'as eu pas mal de peur quand t'étais enfant, pendant que tes parents conduisaient parce qu'ils ont un jour évité de justesse un accident, tu vas avoir inconsciemment peur de la voiture. Donc, si un jour, à l'âge adulte, tu te diriges vers une voiture parce qu'on t'emmène à une soirée et que tu dis « Oh là là, j'ai l'intuition que ça va me le passer, j'ai peur », c'est peut-être de l'intuition qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est peut-être aussi l'émanation de ce brouhaha de peur inconsciente qui fait que tu associes voiture à danger. Donc, la grande difficulté, c'est que souvent, ce que l'on pense être des intuitions, c'est juste des messages de nos peurs inconscientes, de nos croyances inconscientes, de nos désirs éventuellement. Et souvent, quand on a envie d'avoir de l'intuition, c'est précisément pour des sujets où émotionnellement, on est très impacté. Tu rencontres quelqu'un, est-ce que cet homme, cette femme, c'est la bonne personne? Oh, j'aimerais avoir l'intuition. Bah non, là, tu as un tel débordement de désirs et d'attentes que ton intuition, elle est complètement... complètement inaccessible et invisible parce qu'elle est noyée dans le désir. Donc déjà, quand tu fais... c'est là encore un long cheminement de découverte de soi-même qui te permet de savoir comment tu fonctionnes, comment tu réagis, quels sont tes désirs inconscients, quelles sont tes peurs inconscientes. Et quand au bout d'un certain cheminement, tu commences à mieux te connaître, bah là, tu vas être plus en capacité d'avoir... Une possibilité d'écouter avec justesse ses élans. Et pour moi, l'intuition, elle se manifeste de façon sensorielle. C'est-à-dire c'est pas de la réflexion. Tu sais, c'est Descartes lui-même qui disait que l'intuition, ce n'est pas du raisonnement inconscient. Ça n'est pas parce que, par exemple, tu as, n'importe quoi, un radiologue à 20 ans d'expérience, il a vu des milliers de radios de patients. Et on va dire, il va avoir de l'intuition parce qu'il va être capable de voir plus finement dans une radio ce qu'il y a à voir ou ce qu'il n'y a pas à voir. Ça ne s'appelle pas de l'intuition. C'est du raisonnement inconscient qui est basé sur une grosse expérience acquise dans ce domaine-là. Il y a une formatrice en intuition qui m'a donné un exemple assez frappant que je reprends dans le livre. Elle prend l'exemple d'une vendeuse dans un magasin de vêtements qui est en train de ranger les vêtements et qui voit entrer une cliente, et après quelques échanges brefs, la vendeuse se dit « Oh, cette cliente, elle va aimer cette robe rouge que j'ai mis dans le rayon. » Elle lui propose et la cliente le prend et effectivement, elle aime bien la robe rouge. Et là, une fois la vente faite, la vendeuse se dit « Waouh, super, j'ai vraiment de l'intuition, je savais qu'elle allait aimer cette robe rouge. » Ça, c'est pas de l'intuition, c'est du raisonnement inconscient. Cette vendeuse, elle a une bonne connaissance des goûts, de pas intuitivement justement, mais instinctivement, elle est capable voilà, en voyant une personne, d'analyser assez rapidement quels vont être ses goûts et ses préférences. Donc ça, c'est du raisonnement, c'est pas de l'intuition. Dans le cas de la vendeuse,
assez de data finalement pour pouvoir.
Voilà, elle a des data, elle a plein d'infos sur les clients, leurs goûts, etc. Donc elle sait inconsciemment réagir très très vite pour proposer quelque chose. L'intuition, dans le cas de la vendeuse, ce serait cette même vendeuse dans ce magasin en train de ranger les vêtements. Et tout d'un coup, elle prend une robe rouge et elle se dit « Waouh, j'ai l'impression que dans 5 minutes, quelqu'un va entrer et va m'acheter cette robe rouge. » Elle la met sur le portique et 5 minutes après, il y a une personne qui rentre dans le magasin, qui voit la robe rouge et qui l'achète. Ça, c'est de l'intuition. Parce que là, à ce moment-là, au moment où l'information vient à la vendeuse, elle n'a pas vu la cliente, elle ne sait pas si c'est une cliente, un client, elle ne la connaît pas, elle ne connaît rien, elle n'a aucune information. Donc là, elle capte véritablement une information du futur, une prémonition dans ce cas-là, et c'est précisément ça, l'intuition. Souvent, on l'écoute pas. Souvent, pour reprendre le cas de la vendeuse, elle peut avoir eu cette pensée, puis elle raccroche le portique, et puis sauf que la cliente ne vient pas 5 minutes après, elle vient 1 heure après. Et là, la vendeuse, elle a simplement oublié qu'elle a même eu ce ressenti. Et comment il s'est manifesté ce ressenti? Il s'est pas manifesté comme une sorte de pensée. Peut-être qu'en tenant la robe, elle a eu un truc dans le ventre. Tu sais, un petit élan. Elle a eu un sursaut ou elle a eu un frisson. Elle a eu quelque chose qui s'est manifesté physiquement dans le corps, bien au-delà de ce que serait une réflexion mentale. Et souvent, on prête pas attention à ça. Tu sais, tu passes devant une boutique ou n'importe quel endroit et tu te sens pas bien, tu le vois pas même et tu passes. C'est l'intuition qui a une résonance qui ne te convient pas à cet endroit-là ou à d'autres endroits. Tu rencontres quelqu'un et il y a quelque chose qui te pousse, qui te fait avoir une sorte d'élan vers cette personne parce que tu as envie de parler avec elle, parce que tu as envie de la regarder. C'est toutes ces petites... j'aime bien le mot élan, parce que pour moi, il a beaucoup de sens. C'est tous ces petits et gros élans vers une personne, une direction dans la ville dans laquelle tu marches, vers un livre, n'importe quelle situation. C'est des choses très spontanées, très subtiles, mais qui sont pour moi vraiment des messages de notre intuition. Et notre intuition, je terminerai peut-être là-dessus... Notre intuition, c'est pas un truc anodin. C'est pas un mot un peu fourre-tout du développement personnel ou je ne sais quoi. Pour moi, l'intuition, c'est le langage de l'âme. On a une âme. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une âme? Ça veut dire qu'on a en nous l'accès à un réservoir de connaissances infini. Notre âme, la part spirituelle qui nous constitue et qui survivra à la mort du corps, elle est déjà en dehors du temps et en dehors de l'espace. Notre âme, potentiellement, elle est en résonance avec l'ensemble de cette réalité dans laquelle nous vivons, mais aussi avec le futur, avec le passé, avec toutes ces dimensions-là. Mmh. Elle a une forme de sagesse intérieure. Elle a une forme de paix intérieure, d'amour, de paix absolument colossale. Cette intuition, enfin cette âme, elle est capable de nous envoyer ces petits élans, ces petits signes qui sont des indications importantes parce que ces élans-là, ils nous amènent dans la direction où notre âme va être encore plus en capacité de se déployer. Et c'est pas anodin. Tu vois, pour moi, l'intuition, c'est vraiment ce qui est la chose la plus précieuse que notre âme nous laisse pour nous rappeler cette richesse spirituelle qui nous constitue au quotidien.
Absolument, je te rejoins aussi sur cette importance de l'intuition. Et c'est vrai que c'est le cheminement que tu proposes dans ton livre. Il parle de la mort et de cette enquête. Et finalement, c'est un livre qui nous mène à l'âme, qui nous mène à notre intériorité. C'est comme ça que tu conclus finalement ton expérience et ton livre aussi sur ce retour à l'intérieur. Est-ce que c'est le message que tu aimerais partager, que tu aimerais inspirer auprès des lecteurs ou des explorateurs de la conscience comme toi, de se souvenir de sa véritable essence?
Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai qu'au début, mon questionnement et mon travail étaient vraiment focalisés sur est-ce qu'il y a une vie après la mort? Point. Et à partir du moment où j'ai commencé à réaliser que c'était effectivement le cas, que notre conscience existe bien avant notre naissance et continuera d'exister bien après notre mort physique, ça change progressivement le regard que l'on porte sur la vie. Parce que même si le sens de cette existence continue à m'échapper, je sais qu'il y en a un. Je sais qu'il y en a un. Et ça me permet de voir notamment les épreuves que je traverse, non pas comme des injustices insurmontables, mais comme des étapes sur un chemin de l'évolution de mon âme. Et même si ça m'échappe, même si le but et la finalité de tout ça m'échappe complètement, ça apporte une telle paix au quotidien. Parce qu'on vit dans un monde qui, même si nous, en France, on est quand même beaucoup préservés des difficultés qu'il y a sur cette planète, on n'est pas en guerre, on a accès à des soins quasiment gratuits, on n'a pas à se poser 1000 questions que se posent des milliards d'autres êtres humains quant à leur survie, leur accès à l'eau potable, l'accès aux médicaments. Tu vois, hier, je lisais une anecdote d'une femme en Inde. C'est une petite histoire, mais une femme qui a été brûlée accidentellement en faisant la cuisine et qui est conduite aux urgences en Inde, sauf qu'elle n'a pas les moyens de subir le traitement, donc elle est renvoyée chez elle, quoi. Parce que sa famille peut pas payer les soins. Ça nous paraît, nous, impensable. Je veux dire, si tu te brûles, tu vas à l'hôpital, ça va coûter 2 000-3 000 euros par jour d'hospitalisation, mais tu le vois pas, tu le sais même pas. Et tu vas sortir de l'hôpital parce que tu seras guéri. C'est pas le cas pour des milliards d'êtres humains sur cette planète. Donc nous, on a une chance absolument extraordinaire. Mais je sais même plus où je voulais en venir, d'ailleurs.
Cette idée que on retourne à l'intérieur, on se reconnecte à notre âme, que peut-être c'est ça le chemin, et de remettre du sens aussi dans les épreuves, dans les expériences qu'on peut traverser, non pas comme des punitions, mais comme des opportunités d'évolution.
Voilà, exactement. Et je pense qu'il y a, même si encore une fois le sens de tout ça m'échappe, je pense qu'à un niveau plus élevé de ma conscience, de mon âme, comme de la tienne, comme de tous les êtres humains qui nous écoutent, il y a une logique, il y a un sens. Et c'est pas parce qu'on perçoit pas ce sens qu'il n'existe pas.
Ouais.
Ça c'est pour moi important. Et même dans des choses aussi en apparence insupportables que la perte d'un être cher, bien sûr, au niveau de nos personnalités et de notre ego, de perdre mon frère, c'est une tragédie, c'est profondément triste. Mais maintenant que je sais que l'âme de mon frère, elle n'a pas disparu, elle continue son existence et que paradoxalement, elle est presque plus facilement en lien avec moi parce que lui n'a plus les blocages de son individu terrestre pour interagir avec moi. Paradoxalement, notre lien, il est peut-être même renforcé aujourd'hui. Et ça, c'est pas une croyance. Ça, c'est pas une espèce de construction que je me suis élaborée pour me faire du bien. C'est vraiment un constat que j'ai pu observer en moi, mais que j'ai pu observer aussi chez des centaines de témoins, de personnes que j'ai rencontrées, et qui est validé par des recherches, des études scientifiques sur les différents aspects de la conscience. Donc, tout ce que je partage avec toi et ce que tu m'offres de partager, c'est pas le fruit d'un cheminement personnel, dans une retraite loin du monde. Je ne parle pas de philosophie, en fait. Je parle des constats auxquels nous permettent d'avoir accès des recherches et un regard très rationnel sur qu'est-ce que c'est que la conscience, qui nous sommes, en fait.
Absolument. Et dans ce que tu dis, c'est téméraire de partager ça. Tu vois, j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec une personne qui suit aussi mes contenus et qui me disait, voilà, Jenna, j'ai perdu ma compagne, j'ai perdu mon enfant, et je voulais témoigner du fait que le deuil peut être vécu autrement que ce qu'il est souvent représenté dans notre société comme la tragédie absolue qui fait qu'on sombre dans le désespoir et que presque on ne peut pas en sortir. Et il m'exprimait que, bien sûr, exactement comme tu l'as dit, mais avec d'autres mots, bien sûr, c'est une tragédie et c'est une source d'émotions immenses. Cependant, ça a réveillé l'amour de la vie en lui, une gratitude infinie pour les choses, un apaisement quant à la mort. Et il voulait témoigner aussi du fait que il est possible de vivre le deuil autrement, il est possible de continuer de vivre, de trouver la joie et même d'oser employer le mot de gratitude, non pas la réjouissance de l'événement tragique, mais de faire émerger en soi finalement cette étincelle de joie, de gratitude pour la vie. Et c'est ce que tu partages aussi à travers ton livre, dans l'histoire bien sûr de la mort de ton frère, mais également celle de ton père, comment tu l'as accompagné aussi, c'est très beau. Et je trouve qu'il y a vraiment une notion de bravoure, de partager sur ces thématiques-là, comme tu le fais, et aussi de la manière dont tu le fais sur les plateaux télé, sur les radios. Alors ici, on est sur une chaîne YouTube où les gens sont déjà ouverts à ces thématiques, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la francophonie qui ose parler de ces thématiques qui sont encore très tabous, qui parfois sont sujettes à des interdits, voire des moqueries. Comment est-ce que tu te positionnes, toi, par rapport à ça? Quel est ton regard, justement, sur le fait que tu partages sur ces thématiques-là, comme tu le fais depuis tant d'années aussi?
Écoute, moi, j'ai pas changé. J'ai les pieds sur terre. J'ai les pieds sur terre. Ça m'empêche pas, et au contraire, d'avoir la tête complètement dans les étoiles, pour reprendre l'image. Mais j'ai abordé toutes ces questions-là avec beaucoup de rationalité. C'est-à-dire que les questions sceptiques que l'on peut éventuellement me soumettre, je me les suis posées moi-même 1000 fois, de façon 1000 fois plus précise, 1000 fois plus tordue que n'importe quelle personne qui viendrait critiquer un petit peu le travail que je ferais. Et donc, quand je parle de ces sujets-là sur des plateaux, à la télévision ou en radio, je connais mon sujet et je sais quelles vont être les questions rationnelles qu'on va me poser, parce qu'encore une fois, je me les suis posées. Comme je disais au début de notre entretien, tu sais, je suis, comme j'observe ça chez les hommes, c'est peut-être une caractéristique masculine d'être borné. Moi, j'ai été borné, et je me suis pas déborné en adoptant une croyance parce que tout d'un coup ça me plaisait. Je me suis déborné parce que j'ai accumulé les éléments très concrets, très rationnels d'enquête qui m'ont permis de déconstruire la certitude qui imprègne notre monde que tout est matière et que rien d'autre n'existe que la matière. Non, cette idée, ce postulat est une croyance. Ça n'est pas étayé par une démonstration scientifique. Et surtout, les éléments de preuve qui déconstruisent cette croyance, ils sont innombrables. Il suffit d'aller enquêter, ne serait-ce que quelques mois. Tu sais, moi, je dis souvent à mes confrères, faites le même boulot que moi. Vous êtes journaliste, vous êtes compétent, allez enquêter comme je l'ai fait et vous allez vous apercevoir. Tout va exploser en quelques mois. Parce qu'il y a des études scientifiques qui attestent que l'explication matérialiste ne fonctionne pas pour expliquer, ne serait-ce que les expériences de mort imminente, par exemple. Tu continues à avoir parfois des gens qui disent « Oui, bah, l'expérience de mort imminente, c'est peut-être finalement des trucs dans le cerveau qu'on n'a pas mesurés, parce qu'on peut pas les mesurer, ou on va bien trouver une explication dans le cerveau. » Ça, c'est une profession de foi, c'est pas une preuve scientifique. Et cette profession de foi, elle est malmenée par les études des expériences de mort imminente telles qu'on les fait aujourd'hui. Quand une personne, dans un accident de voiture ou sur un bloc opératoire, par exemple, une table d'opération, en train de subir une opération à cœur ouvert, qui va faire qu'à un moment, elle va être totalement dans le coma, totalement pas là, et que son cœur et que son cerveau va cesser d'être irrigué pendant une certaine période de temps. Quand cette personne te dit « Bah non, j'étais pas du tout inconsciente, je suis même sorti de mon corps, j'ai vu ce que le chirurgien faisait, et puis je suis sorti dans la pièce d'à côté, puis j'ai vu dans le bloc opératoire, ils étaient en train d'opérer quelqu'un du genou, et que le chirurgien avait d'ailleurs un calot jaune canari avec, je sais pas, un cœur rouge dessus. Je veux dire, d'où ça sort, ça? Parce que, et moi, mon boulot, il a simplement consisté à aller vérifier. Est-ce que ce témoignage-là, d'où il vient, en fait? Est-ce que c'est une espèce de légende urbaine que les gens se racontent, ou est-ce que je peux retrouver le témoin et je peux retrouver les médecins? Et quand je fais ce boulot, je retrouve le témoin, je retrouve les médecins, je recueille le témoignage et je m'aperçois que le médecin me raconte déconfit. Ben effectivement, ce type-là, quand il s'est réveillé, il nous a dit que dans le bloc opératoire, il se passait ça, et je suis allé vérifier, et c'est effectivement ce qui se passait. Et cette histoire, je la comprends pas du tout. Et des témoignages comme ça, t'en as pas un ou deux, t'en as des milliers, qui sont accessibles, qui sont vérifiables, qui sont mesurables, quantifiables, etc. Donc quand tu fais ce travail comme je l'ai fait, il n'y a pas d'autre explication que cet homme ou ce patient est réellement sorti de son corps. Donc, il a une dimension que je vais appeler son âme pour plus de simplicité, qui est simplement sortie de du corps parce que son cerveau fonctionnait plus, donc n'était plus en capacité de la bloquer. Et son âme, elle a retrouvé une dimension assez magistrale qui lui permet de savoir et d'observer tout ce qui se passe autour. Et ça, c'est ce qui, c'est comment dirais-je, c'est ce qu'on constate par milliers. Voilà. Enfin, je pourrais repartir encore sur plein d'autres exemples, mais ce travail méthodique, pour moi, il est vraiment nécessaire, indispensable, et c'est lui qui permet justement à ce constat que nous sommes des êtres spirituels faisant une drôle d'aventure sur cette planète terrestre.
Ouais, tu partages notamment l'idée dans le livre que j'aime beaucoup que la conscience se projetterait dans cette incarnation, dans cette personnalité, plutôt qu'elle viendrait s'incarner entièrement, etc. Mais c'est, il y a plein de choses que tu partages dans ton livre et plein d'exemples, notamment si les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller plus loin. Ça m'amène peut-être à une des dernières questions de notre entrevue, ce que tu viens de partager. Qu'est-ce que tu espères, toi, personnellement, quant à l'avancée des recherches, mais aussi des mentalités sur cette vision du monde, sur cette notion de la conscience que tu questionnes et sur laquelle tu enquêtes dans ce livre, mais dans tous les autres livres et tout ton travail? Peut-être une vision du monde un peu moins matérialiste, peut-être une ouverture des esprits sur ces questions-là?
On y va. Tu sais, j'ai aujourd'hui 55 ans, donc ça me donne l'avantage d'avoir un peu de recul. Et je vois que sur ces questions-là, combien les débats ont évolué, même sur les plateaux de télévision mainstream. Il y a 20 ans, 25 ans, on était dans une forme de moquerie, de rigolade. Tous ces phénomènes étaient soit entrevus sous l'angle de la peur, donc tu avais des reportages un peu flippants sur les fantômes, les machins comme ça, soit tu avais des émissions un peu rigolotes, un peu dénigrantes de ces phénomènes-là. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a une écoute un peu plus subtile. Alors, c'est toujours frustrant pour les gens qui sont très ouverts à ça et pour qui ça pose pas de problème. Tu vois, j'étais il y a quelques semaines invité sur le plateau de TPMP. J'ai été très agréablement surpris de l'écoute qu'il y avait sur ce plateau. Il y avait une curiosité, il y avait des questionnements intelligents, il y avait et surtout une écoute. Il n'y avait pas, j'étais pas interrompu toutes les 4 secondes par des opinions de personnes non compétentes qui n'avaient pas étudié le sujet mais qui avaient juste envie d'exposer leur opinion. Non, pendant 18 minutes, on m'a questionné, on a écouté ce que je disais et j'ai rencontré par la suite en conférence ou ailleurs beaucoup beaucoup de lecteurs qui m'avaient découvert à cette émission parce qu'ils connaissaient pas mon travail, ils connaissaient pas ces sujets. Et voilà, donc dans ce sens, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui trop de phénomènes. Trop de choses inexpliquées qui rendraient encore possible d'aborder ces questions-là juste en disant « Oh, c'est de la rigolade, ça. » T'as des gens qui pensent peut-être ça. Mais je pense qu'intuitivement, beaucoup de gens attendent un peu plus d'intelligence dans le traitement de ces sujets-là. Et puis tu sais, le sceptique le plus borné, il a une âme en lui. Il a une âme. Donc il a au fond de lui... Peut-être que ça se manifeste parfois par des expériences, par des intuitions étranges. Il a cette dimension spirituelle, même s'il y croit pas. Même s'il y croit pas mordicus. Donc je pense, et ça je l'ai vu, tu sais, j'ai été interrogé aussi sur des chaînes, sur des plateaux où les gens sont en apparence extrêmement sceptiques, extrêmement critiques. Et puis une fois que le micro, que la caméra est coupée, le présentateur me dit « c'est génial ce que tu me parles, parce que moi il m'est arrivé ci, moi il m'est arrivé ça ». J'ai été interrogé par un présentateur télévisé très politique, et qui, hors micro, à la fin me dit « Ah non, je crois que même il me l'a dit sur le plateau, lui il a osé le dire », partager que effectivement sa maman avait aussi été témoin de perceptions de défunts pendant sa fin de vie. Ces phénomènes, ils imprègnent notre société. Que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, ils sont là. Ils imprègnent notre société. Les études montrent que plus de 50% des gens en deuil vivent une expérience de contact spontané avec un défunt. Ça peut être un signe très fugace, mais ça peut être aussi une sensation tactile, une sensation de présence, jusqu'à une vision. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Et en général, quand tu n'y crois pas, ça va plus être impactant encore que quand tu y crois, parce que ça vient bousculer tous tes repères. Donc, ce spirituel, il est là. Cette dimension spirituelle, elle est là. Nous sommes des êtres spirituels, que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas. Donc, moi, je reste vraiment partisan du verre à moitié plein. Et je pense que en faisant, enfin moi c'est la décision que j'ai suivie, c'est-à-dire que je ne critique pas les peurs légitimes, les appréhensions, l'envie d'être rationnel qui se manifeste dans notre société. J'en joue et je vais dans ce sens-là parce que moi aussi j'ai envie d'être rationnel. Et quand tu fais ce travail d'enquête méthodique tel que je le fais en tant que journaliste, bah tu désamorces ces peurs parce que tu apportes des arguments. C'est bien beau de dire vous êtes idiot parce que vous croyez pas à cette dimension spirituelle, mais encore faut-il l'argumenter. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'apporte des arguments pour dire vous pouvez être très rationnel et justement, grâce à cette rationalité, faire le constat que nous sommes des êtres spirituels. Alors, tu as toujours un petit reliquat de personnes qui, elles, ne veulent strictement rien entendre. Mais c'est pas grave. C'est la nature humaine d'avoir, j'en reviens à la carapace et à l'ego que nous avons construit dans notre enfance. Notre carapace, elle s'accompagne de plein de croyances, de plein de certitudes. L'être humain est un être qui supporte pas l'incertitude. Donc, toute l'intelligence de la vie, c'est justement de nous amener à des moments où nos certitudes vont être bousculées. Et même la personne la plus sceptique, la plus fermée, la plus laïque, elle va arriver peut-être à un moment, en perdant un proche, ou en étant touchée par la maladie, ou tout d'un coup, en voyant ses défenses un peu ébranlées par un événement ou un autre, il va se passer quelque chose.
C'est là qu'on voit qu'il y a toujours des possibilités d'évolution, de transformation, même dans un esprit qui est bien fermé, qui est bien assis dans ses certitudes. Et je suis d'accord avec toi. Il y a de l'évolution partout et toujours. Ouais, je te remercie vraiment du fond du cœur. Déjà pour ton travail que tu fais, que je suis depuis de nombreuses années et qui aide, qui éclaire et qui apporte aussi, comme tu le dis, tant d'événements, d'éléments, pardon, concrets, de recherches, d'enquêtes solides qui viennent aussi un peu démystifier cette spiritualité qui est parfois mise un petit peu à la marge, comme si les personnes n'étaient pas capables de penser pour elles-mêmes. Et donc c'est rafraîchissant et c'est surtout nécessaire, je crois. J'inviterai bien sûr tous les auditeurs à aller découvrir ton livre, La mort n'existe pas, aux éditions HarperCollins, qui est passionnant, qui est très bien écrit aussi et qui a la aidera et touchera à la fois les personnes qui découvrent ces thématiques spirituelles, qui se posent des questions, mais aussi les personnes qui sont déjà très ouvertes, je pense, qui y trouveront de beaux éléments de réflexion, d'enrichissement personnel. Stéphane, merci du fond du cœur pour ta présence ici, pour tes partages, les réponses à ces questions, toujours profondes et très éclairantes, et au plaisir de t'accueillir de nouveau pour un prochain ouvrage ou un prochain partage.
Ben écoute, merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de plaisir à répondre à tes questions nouvelles. Je n'ai pas souvent l'habitude d'entendre, donc notre échange était un vrai plaisir. Puis j'espère que les gens qui nous ont écoutés vont trouver aussi matière à réflexion. Merci beaucoup.
J'en suis sûre. Merci Stéphane.